Bonjour, ici François Nardoux, au studio des Aliments, au Boulevé. Je compte vous parler aujourd'hui des sources et fontaines en Quercy Blanc. Le thème est facile à traiter dans la région, vu les conditions naturelles qui se prêtent particulièrement à l'émergence de sources, à des résurgences. Le Quercy étant caractérisé par la masse de ses cosses calcaires qui laissent passer l'eau des pluies par percolation, pluies qui ressurgissent au contact des argiles, ou quelquefois même à mi-versant, ou même quelquefois même sur l'Écosse, on voit des résurgences, donc des sources extrêmement nombreuses en Quercy, sources que l'on peut classer en différents groupes, par le site où elles jaillissent, le volume, le débit, mais surtout par les utilisations qui en sont faites, et par l'aura de vertus surnaturelles qu'on leur prête. Vous avez en Quercy des sources très ordinaires, qui sont uniquement utilitaires, qui ne sont pas pour autant chargées de légendes ou de mythes. Quelques-unes sont considérées comme guérisseuses, c'est le cas de Saint-Jean-le-Froid par exemple, ou de celle de Saint-Pantaléon, de Sainte-Rose à Bouloc, d'autres un peu partout. Et quelques-unes ont une vertu particulière, elles peuvent être par ailleurs sans vertu guérisseuse ou avec, selon les cas. Certaines sources, non seulement sont guérisseuses, mais en plus de ça, ont des pouvoirs sur la nature. Elles permettent aux Quercinois, aux habitants du Quercy Blanc, aux Quercinols, de développer, semble-t-il, de véritables pouvoirs de chaman. En réalité, ce ne sont pas les gens du cru, gens du pays, les simples laïcs qui sont chargés de ces rites, mais sont uniquement les curés de paroisse. Alors, pour parler des sources, il faut d'abord déterminer comment est-ce qu'on les appelle en dialecte local, en occitan du Quercy Blanc, le pays de Quercy Albenc. On doit dire Quercy Albenc et non pas Quercy Blanc. En Quercy Blanc, le pays des vallées, le pays dels vals, le pagus wallium du latin médiéval, les sources ont plusieurs noms. Le terme le plus simple, c'est fun, du latin fons fontem. On connaît également d'autres termes, ainsi par exemple à Belmonte, le vallon où se trouve le village porte le nom de Cumbo del Rio del Güell, le Rio del Güell, le ruisseau du Güell. Alors Güell est un très vieux mot, semble-t-il peut-être d'origine latine, serait peut-être le latin oculus. En tout cas, il est très fréquent en Gascogne, entre la Garonne et les Pyrénées. On le trouve également donc ici à Belmonte. Alors l'étymologie pose problème, mais elle est intéressante parce que à travers le latin oculus, l'œil, on retrouve le nom des sources dans les langues sémitiques, hébreu, arabe, où une source se dit Ain, qui désigne également l'œil. Donc la source, c'est l'œil de la terre. Alors qu'en occitan, la source, c'est souvent le cap d'aigo, la tête d'eau, la résurgence. Elle porte également le nom de Dutz, dont l'étymologie là aussi est problématique. Certains pensent au pré-indo-européen Tour, qui a donné le nom du Touron, le Touron de Montcuq, ou le Théron à Valprionde. L'étymologie la mieux établie, c'est le latin ductium, c'est-à-dire ce qui conduit de l'eau. On a d'autres termes comme abenc, sur l'Écosse, assez rare. En Quercy, il y a un terme très particulier au Quercy, qui est le mot burmaco. Alors là, burmaco, ça s'écrit bormaca. Ça vient très nettement du gaulois bormo, qui est plus connu sous la forme borvo ou borbo, qui a donné bourbon. Peut-être le boulevé, mais c'est pas sûr du tout. Et que l'on retrouve dans l'occitan bourboul, qui désigne des sources qui bouillonnent. On les appelle également des boulilous, des sources froides et qui bouillaient. Comme dit le texte d'un des romans de la Table Ronde, dans la forêt de Brocéliande, la source de Barenton était une source froide et qui bouillait. Elle était froide à minuit et bouillante à midi. C'est-à-dire, en fait, c'était des espèces de montées de gaz qui provoquaient ces bouillonnements. Et le terme le gaulois borvo, est l'équivalent du latin ferruere qui signifie fervent. On rejoint là toute la vieille mythologie des eaux, des sources, des jaillissements des eaux qui viennent du monde d'en bas, toute une mythologie qui s'est traduite dans la Gaule ancienne par des cultes de sources, placés souvent sous le patronage d'un dieu gaulois que l'on appelle l'Apollon gaulois, Belenos, qui avait plusieurs épithètes, Granos, ça a donné Granue Jules, et sa source de Bellefond, également Borvo, qui a donné Bourbon, Bourbon-l'Archambault, etc. Alors, pour en revenir au Quercy Blanc, Nous avons la particularité, c'est assez intéressant en Quercy, d'avoir des sources donneuses de pluie. Un de mes amis d'origine bretonne me disait qu'en Bretagne, c'était plutôt l'inverse. On va plutôt en pèlerinage à des sources pour obtenir le beau temps. Ici, en Quercy Blanc et dans tout le sud-ouest, vous allez à des sources pour obtenir la pluie. Ça montre la différence de climat. Alors, nous avons quatre sources dans ce cas en pays de Quercy Blanc. Je vais vous donner le nom et après nous les décrirons en chapitres successifs. Vous avez d'abord la plus simple, la plus ordinaire, à Roufiac, commune de Carnac-Roufiac, la source dite de Sainte-Rufine, Santo-Rufino en occitan. À Cambeirac, vous avez la source de Saint-Pardous ou Perdous, selon ce que l'on prononce. Ensuite, vous avez à Rouillac, la source de Saint-Julien, Saint-Julien de Brioude. Là aussi, des problèmes quant à l'appellation. Et enfin, en fond de haute vallée de la Barguelonne, au bord même de la Barguelonne, dans une parcelle de terre, à Saint-Martial, section de l'ancienne commune de Saint-Pantaléon, mais Saint-Martial est une paroisse, vous avez une source, que l'on dit la source de Saint-Martial, mais elle n'a pas de nom propre particulier. Alors, pour beaucoup de gens du pays, la source, c'est qu'ici, on peut l'appeler également une fontane, une foune, etc., etc., un gouttier, un goutal, etc., on a d'autres noms. Il y a une confusion qui est due à l'influence du français. Le français contamine, si vous voulez, la langue locale, la culture locale. Vous avez des gens, en Quercy comme ailleurs, qui savent trouver les sources. Ils ont la capacité, le pouvoir, la vertu de trouver les sources et les courants d'eau souterrains. Alors, en français, on dit des sourciers, ce qui fait que pour beaucoup de gens, on croit que les sourciers trouveurs de sources sont des sorciers. En occitan, la confusion est impossible, parce qu'un sorcier, c'est un brueich, une masque. Une sorcière, ce sera une brueiche ou une masco, alors qu'un trouveur d'eau, un trouveur de source, c'est une trubaire de fun ou une trubaire d'aigo. La confusion est donc impossible. Ceci étant réglé, on en va passer donc aux quatre sources dont je voulais vous parler aujourd'hui et qui sont des sujets qui peuvent intéresser en raison de l'aura mythologique qui les environne. Je vais donc vous traiter des quatre cas de la source de Sainte-Rufine à Roufiac, de Saint-Perdoux à Cambeirac, de Saint-Julien dit de Brioude à Rouillac et de Saint-Martial en Haute-Vallée de la Barguelonne. Je vais donc commencer aujourd'hui par la source de Roufiac, commune conjointe de Roufiac et de Carnac. Alors le nom même de Roufiac est intéressant parce qu'il vient du vieux latin rufus, qui a donné Roufiacum. Roufiacum, ça veut dire le domaine, c'est du gaulois latinisé. En fait, c'est Roufiach, qui veut dire le domaine des Roufis. C'est donc le domaine rural d'une famille qui était celle des Rufus, au pluriel Rufi, c'est-à-dire des roux et des rouges. Or, il se trouve que, alors voilà ce qu'on m'a raconté, d'après des témoins actuels, dans une prairie qui se trouve derrière l'église, au-delà de l'église par rapport à la route d'accès, il y a une source qui, de nos jours, est à fleur de terre. Et qui n'est pas plus fréquentée qu'une autre. C'est une source oubliée. Or, d'après le chanoine Sol, dans son Vieux Quercy, ouvrage qu'il avait rédigé au début du XXe siècle, ça fait maintenant 100 ans, et qui a été publié pendant l'entre-deux-guerres, puis réédité vers 1970 par la Maison des Œuvres, le chanoine Sol nous assure que cette source de Roufiac, que l'on appelle de Sainte-Rufine, de la Sainte-Rouge, si vous voulez, Santo-Rufino, la rousse de couleur rougeâtre, d'après lui, cette source était protégée par une voûte en pierre, qu'il a donc couvrée, et au fond de cet habitacle, il y avait, au-dessus de l'eau, dans le mur de fond, une pierre rougeâtre, qui pour les gens du pays était la statue de Sainte-Rufine, du moins l'effigie de Sainte-Rufine. Et cette pierre rougeâtre, qui est du calcaire ferrugineux, on en trouve également au Boulve, avait la particularité, alors qu'elle est en milieu saturé d'humidité, à l'ombre, à l'abri du soleil, elle avait la particularité de exsuder une espèce d'humidité lorsqu'il allait pleuvoir. Par contre, alors qu'elle était à l'ombre et en local humide, elle restait totalement sèche en cas de sécheresse. Si vous voulez, elle était sans aucune humidité. Et tout d'un coup, dans les mêmes conditions de milieu local, elle se mettait à suer de l'eau. Et il se mettait à pleuvoir le lendemain ou dans les jours qui suivaient. C'était une source qui, en quelque sorte, annonçait la pluie. Elle ne la faisait pas venir, mais elle l'annonçait. Pour les gens que j'ai interrogés, mon dieu, la voûte a complètement disparu, y a plus, et même la pierre en question, plus personne ne sait ce qu'elle est devenue. Alors, évidemment, ça pose un problème, il y a une contradiction dans les informations que j'ai pu recueillir, parce que derrière tout ce qu'on peut en tirer quant à l'étymologie, il faut savoir que le latin rufus, qui est une espèce d'adaptation, en fait, d'un vieux mot gaulois qui désigne le mauvais rouge, si vous voulez. Le roux, c'est le mauvais rouge, c'est le rouge mauvais. Alors que le rouge, en gaulois, c'est ro, et ça désigne la grande science. Le rouge de grande science, c'est Lug, le dieu des sommets, le tout-sachant celtique. Son autre figure, c'est Gargan, qui a donné la figure rabelaisienne de Gargantua, qui est une figure solaire, c'est le maître des pierres levées, des menhirs, qui ne sont pas celtiques, et qui sont beaucoup plus anciens que les Gaulois. Lorsque les Gaulois sont arrivés dans nos régions vers 300 avant notre ère, ils ont bien dû se demander ce qu'étaient les dolmens et menhirs. Pour eux, ça n'avait aucun sens. Et Arufiac, donc, c'est intéressant parce que la source de Sainte-Rufine et Rufiac lui-même se trouve à côté de la commune de Carnac. Or, dans Carnac, vous retrouvez le vieux radical qui est un vieux radical pré-indo-européen qui désigne les roches levées, les falaises, les rochers. Donc il se pourrait qu'il y ait là tout un ensemble de faits, de motifs qui font de cette pierre de Sainte-Rufine, la Peiro de Santo Rufino, une ancienne roche rouge qui aurait pu être perçue, il y a bien longtemps, comme étant le siège, la résidence, ou étant même la figure d'une puissance féminine de la nature, des eaux et des pluies. Et fut-elle une espèce de dame, au sens du latin domina, maîtresse, seigneuresse, une dame locale dont le nom de Rufina évoquerait le nom des Rufi, gallo-romain, maître des lieux, vieille femme, une gens romaine, qui aurait donné le nom de Rufiacum, ensuite le domaine des Rufi. Cette famille aurait-elle tenu localement, exercé localement un sacerdoce, assuré un culte des eaux, dont aurait été chargée particulièrement une des filles de la famille, ou une des femmes de la famille. Il faut savoir qu'en latin, une fille n'a pas de prénom, elle a le nom de sa famille au féminin. Aurait-on là une source dont le nom traduirait la longue persistance d'un culte local sous des formes successives jusqu'à l'actuelle christianisation ? Il faut bien noter que le chanoine Sol, qui est le transmetteur principal de la tradition, insiste sur le rôle de roche dont l'exsudation présage et annonce la pluie. Il ne s'agit donc pas de rite de pluie proprement dit, il ne s'agit pas de rite par lequel on fait pleuvoir. Alors que, ailleurs en Quercy-Blanc, on sait faire pleuvoir, on sait comment faire pleuvoir. Évidemment, ce ne sont pas tous les Quercinois du Quercy-Blanc qui savent le faire, la fonction est déléguée. Elle est même réservée à certains personnages particuliers. C'est ce qu'illustre le cas de la fontaine de Saint-Perdoux, ou de la source de Saint-Perdoux, ou Pardoux, à Cambeirac, ou Cambeirac comme vous voudrez. Alors je tiens le récit sur la source de Cambeirac d'une dame qui était surnommée, c'était son diminutif, Fanchon. Alors cette dame, qui faisait de la généalogie du reste, elle m'a raconté ce qui suit. Il y a de ça, dans un temps indéterminé, c'est le temps des légendes, régnait une terrible sécheresse. Les gens de Cambeirac ne savaient plus à quel saint se vouer, c'est le cas de le dire. Et ils ont demandé au curé de Cambeirac, donc le spécialiste du sacré, de conduire une procession avec croix, bannière, hymne, cantique, prière, etc., à une source qui se trouve en haut du versant vers l'ouest des Causses de Cambeirac. Ça domine la route vers Saint-Vincent-Rivedolt. Vous avez le Causses, une falaise de rebord de Causses, et dans le talus de cette falaise, donc tout à fait en haut, on est vraiment dans un milieu très sec, à peu près 1 km de l'église de Cambeirac, j'y suis allé moi-même à pied, vous avez un bassin qui recueille l'eau d'une source, laquelle est fermée, autant qu'il m'en souvient, dans un habitacle avec une porte fermée à clé, et dans un petit habitacle, dans le talus, vous avez un buste qui représente le saint patron de la paroisse, Saint-Pardoux, qui était le saint invoqué par les gens de Cambeirac. Et là, le curé était chargé traditionnellement, en cas de sécheresse, de prendre le buste de Saint-Pardoux, qui est toute l'année exposé dans cette infractuosité dans le rocher, et de le plonger dans le bassin où se trouvait l'eau de la source. Et on considérait que plus il plongeait le buste dans l'eau, et plus longtemps il devait pleuvoir. Or, un jour, tout à fait par inadvertance, le curé était-il trop âgé, trop faible, le buste lui a glissé des mains et tombé dans le bassin. Et le buste a été complètement noyé dans l'eau du bassin. Là-dessus, il s'est mis à pleuvoir et m'a dit Fanchon, il a plu pendant 6 mois, un vrai déluge tous les jours. Ce qui fait qu'à l'avenir, les gens disaient au curé, avaient compris que c'est en quelque sorte, il ne fallait pas trop forcer la dose. Et les gens disaient au curé, surtout monsieur l'abbé, ne le plongez pas trop, ne le plongez pas trop. Mais chaque fois que l'on plongeait le buste de Saint-Pardoux dans le bassin, chaque fois il pleuvait. on a assisté là vraiment à un rite de faiseur de pluie, un rite qui consistait à provoquer la pluie par l'immersion du buste de Saint-Pardoux dans le bassin de cette fontaine. Alors, on note qu'il n'y a que le curé de Cameira qui pouvait faire la chose. De nos jours, c'est son successeur. Je crois que c'est le curé de Montcuq qui est chargé de la chose. Il faut plonger un buste qui est en pierre sculptée de Saint-Pardoux dans le bassin de la source. Or, Saint-Pardoux est un saint à légende, c'est un saint intéressant. C'est un saint protecteur de l'ancienne Aquitaine gallo-romaine contre les Sarrasins. Et c'est un saint de lumière, c'est un saint aveuglant, c'est un saint solaire. Par la lumière qu'il provoque, il aveugle les adversaires, les ennemis de la chrétienté et de l'Aquitaine gallo-romaine. Il porte un nom qui fait de lui, c'est Part Wolf. Alors Wolf, c'est le vieux germanique qui signifie loup, et Part, ça vient du gaulois, para veredus, qui a donné l'allemand Pferd, le cheval, et qui se retrouve dans le, par exemple dans le vieux français léopard, le cheval lion. Léo, le lion, Pardus, le cheval. Donc Saint-Pardoux, c'est le Part Wolf, c'est le loup cheval, dont la figure est sculptée, je vais essayer d'aller vite, dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens, 1er août, de Saint-Donès, ancien Dagonensis, le bon, le donneur de toutes les abondances, sur un chapiteau de la colonne sud de l'arc triomphal primitif de l'église. De nos jours, on entre dans l'église de Saint-Donès par l'ancien chœur. Et vous avez devant vous deux colonnes qui supportent des chapiteaux. La colonne de gauche, quand vous entrez, c'est la colonne sud. Elle supporte un chapiteau sur lequel il y a un loup cheval qui est figuré portant un cavalier, lequel lui-même tient une espèce de soleil, une espèce de boule, c'est-à-dire sur le soleil. C'est un cavalier solaire. Et le loup-cheval, c'est la monture du soleil. Ce que l'on retrouve dans la toponymie de Saint-Donès, puisqu'il y a au sud de Saint-Donès et de l'église, dans l'axe même, vers le midi, de Saint-Donès et de l'église, un pêche qui s'appelle le pêche de Belliqui. Et dans les actes notariés du 15e-16e siècle, j'apprends que à Saint-Donès, et uniquement sur le pêche de Belliqui, le soleil était appelé le loup beau, ce que l'on retrouve dans les sculptures de l'église. Sculptures qui sont de facture gallo-romaine et datent du 2e ou du 3e siècle. C'est une des sculptures rustiques qui ont été récupérées au 11e, 12e siècle sur un bâtiment abandonné, peut-être un ancien temple. On ne connaît pas ni la destination de l'édifice primitif, ni sa localisation. Donc on aurait là, si vous voulez, à travers l'apport de l'iconographie de l'église de Saint-Donès, l'explication du nom même de Saint-Pardoux et de la légende de Saint-Pardoux. C'est un saint solaire, il est le successeur d'une divinité locale qui était en fait le maître des sommets, Loug, mais aussi, et à Saint-Donès, c'est un autre chapiteau qui le montre, il était aussi, si vous voulez, le successeur de ce qu'on appelle le cavalier à l'anguipède, c'est-à-dire un cavalier qui foule un serpent à tête d'homme. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cavalier en question, c'est le dieu gaulois des sommets, Loug Taranis, Loug, maître des orages, qui foule l'ancien dieu pré-celtique, pré-indo-européen, des pluies, mais aussi des sécheresses, et qui l'oblige à libérer les eaux inférieures et les eaux supérieures, et donc à rendre à la nature sa fécondité. Ce qui se passe, donc là, on voit à Cambeirac, c'est que, si vous voulez, le Kersiblam n'est pas à comprendre uniquement à partir de certains sites bien déterminés, mais il faut le comprendre en rapport avec tous les autres éléments de l'ensemble. On aurait donc ici, avec Cambeirac, un saint qui serait certes donneur de pluie, mais en tant que saint solaire, aveuglant, donneur de lumière, protecteur du pays, il serait aussi peut-être l'auteur des sécheresses contre lesquelles on l'invoque. C'est-à-dire que ce serait le même auteur surnaturel, la même puissance surnaturelle, qui pourrait causer aussi bien le mal que le bien. Ce qui était le cas de toutes les divinités de l'Antiquité. Homère le dit très bien de Zeus, il est le père des maux et des biens. Et dans le cadre de ces rites, tout est affaire de mesure. La mesure en toute chose, pas d'excès, ni en trop, ni pas assez. Sinon, on obtient le contraire de ce qu'on cherchait. Au lieu d'obtenir les pluies suffisantes, on obtient un déluge. Et c'est ce que nous révèle le culte de Saint-Pardoux, où la source n'est que le vecteur du pouvoir du saint. À Cambeirac, c'est bel et bien le saint qui fait pleuvoir, ou plutôt son effigie. Alors que nous allons retrouver ailleurs, en Kersiblam, d'autres problèmes à propos des deux autres sources dont je voulais vous parler, Saint-Julien de Rouillac et Saint-Martial. Nous allons nous quitter pour quelques minutes de musique d'ambiance. après Cambeirac et Saint-Pardoux, qui donc peut donner aussi bien la pluie que la sécheresse, ce saint à la puissance duelle, qui peut aussi bien donner le mal que le bien, et dont les reliques du reste sont conservées intégralement dans le cœur de l'église de Cambeirac. Nous allons donc parler à présent des deux cas majeurs du sujet d'aujourd'hui, la source de Saint-Julien à Rouillac et celle de Saint-Martial à Haute-Vallée d'Abargolone. Alors, Rouillac est un nom, je l'ai dit souvent, qui était très intéressant pour l'étymologiste, le toponymiste. Cela vient du latin rulliacum, le domaine des rulli. Alors, les rulli, en bon latin, ça veut dire les paysans incultes, les illettrés, les gens qui sont restés païens alors que les villes sont devenues chrétiennes. En gaulois, ça se disait gourde, également qui a donné le français gour. Donc, ce sont les balours. Et il se trouve qu'à Rouillac, connu pour les fresques romanes du cœur de son église romane, fresques qui illustrent les scènes de la Passion, nous avons, au nord de l'église et en contrebas de l'église, à 100 mètres à peine de celle-ci, il faut très peu de temps pour y arriver, une source, en fond de vallée, qui est sous le patronage de Saint-Julien de Brioude, fêté officiellement le 28 août, et qui a été, comme Saint-Pardoux, un des grands protecteurs de l'Aquitaine gallo-romaine et de l'Aquitaine des temps du Haut Moyen-Âge. Alors, c'est intéressant pourquoi ? Je vais vous dire un truc. C'est que Saint-Julien de Brioude est fêté le 28 août, qui est la veille de la décollation du martyr de Saint-Jean-Baptiste, qui lui-même est maître des orages averseurs fécondants, et qui est fêté à Saint-Jean-le-Froid le 24 juin, jour de sa nativité, et solstice d'été. Peu avant la Saint-Pierre, martyr de Saint-Pierre, autre maître des orages, mais redouté pour leur excès de violence déchaînée. Or, Saint-Pierre est le Saint-Patron de l'église de Rouillac. Il est fêté le 29 juin, alors que Saint-Martial, par exemple, est le 30 juin et le 3 juillet. Il y a là tout un complexe de saints, de fêtes, de rites, de mythes, de légendes, et il y a entre autres un proverbe que m'a appris André Salles de Saint-Donès, c'est « San Juan, nun labo, lai carrieros, am ferratados, San Pere las labara, am peireglados. » Si Saint-Jean ne lave pas les rues avec des seaux d'eau, à grands seaux d'eau, Saint-Pierre les lavera à coups de grêlon. On est toujours dans cette recherche de la juste mesure dans les rythmes et les potentialités de la nature, ni le trop, ni le pas assez. Ça nous vient directement des Grecs et d'Homère, tout cela. En tout, l'excès est le signe d'une carence. Alors, l'église de Rouillac, je vous le disais, est sous le patronage de Saint-Pierre au 29 juin, mais aussi de la Croix Glorieuse, de l'invention de la Sainte-Croix, le 3 mai. C'est intéressant parce que vous allez comprendre ensuite pourquoi je parle de l'exaltation de la Sainte-Croix. C'est que cette source de Saint-Julien de Brioude, au nord et en contrebas de l'église, qui me semble n'être que la résurgence d'une source un peu plus haut sur le talus, sur le versant, qui est la Funde Rocopis, cette source, c'est-à-dire la roche qui pisse, c'est la source pétrifiante. Et pour les gens du pays de Rouillac, son débit au printemps annonce ce que sera l'abondance des récoltes de l'année suivante. Mais elle se perd dans le sol assez rapidement, c'est elle qui ressurgit sous le nom de source de Saint-Julien, en occitan Saint-Sulia. Alors il se trouve que cette source était la destination de procession, d'abord la destination de pèlerinage pour le vœu de Saint-Pierre, le 29 juin, l'Ubot de Saint-Pierre à Rouillac. On invoquait dans ce cas-là la source de Saint-Julien, non pas pour obtenir la pluie, mais pour tous les maux qui touchent la tête. C'est des gens de Rouillac qui me l'ont dit, elle était bonne pour la tête, quels que soient les maux de la tête, migraine, céphalée, etc. etc. Pourquoi ça ? Parce que Saint-Julien de Brioude a été un officier de l'armée romaine qui, vers 300 de notre ère, il était le membre d'une grande famille de l'Auvergne, du Massif Central, richement possessionné dans la région de Brioude, et il était en poste à Vienne sur le Rhône avec son grand ami Saint-Féréol, de la famille des Tonanti Féréoli, vieille famille de la noblesse gallo-romaine de Narbonne. On a deux fils de grandes familles sénatoriales, chrétiens, donc ils ont été l'objet de citations à comparaître, de condamnations à mort. Saint-Julien de Brioude s'enfuit, quitte Vienne, où il laisse le futur Tonantius Féréol, ou le futur Saint-Féréol. Il est rattrapé par l'armée romaine dans une clairière au milieu de la Chênaie Blanche, décapité, sa tête est alors lavée dans une fontaine, dans une source qui en acquiert la capacité de guérir tous les maux de la tête. Et toutes les sources sous le patronage de Saint-Julien de Brioude dans l'Europe médiévale passaient pour des résurgences de celles de la Chênaie Blanche en région de Brioude. Or, à Rouillac, la fontaine sous le patronage de Saint-Julien naît dans un vallon qui porte le nom de Blanc-Cassier, de l'occitan casse, qui désigne le chêne. C'est un des noms du chêne, ça vient du gaulois cassi, qui est le nom le primitif du chêne. Blanc-Cassier, c'est la Chênaie Blanche. Donc on se retrouve dans une, si vous voulez, à Rouillac, autour de la fontaine de Saint-Julien, on est dans un milieu qui reproduit celui où Saint-Julien de Brioude a subi le martyr. Cette source de Saint-Julien donc à Rouillac, connue pour être bonne pour la tête, était donc l'objet d'un pèlerinage, je vous l'ai dit. Elle a une particularité qui s'ajoute à celle des deux sources précédentes de Carnac-Rouffiac, Sainte-Rufine et de Saint-Pardoux, c'est que, comme à Cambeyrac, que, en un temps indéterminé, un temps, alors le temps des légendes, il régnait dans la région une terrible sécheresse. Et les gens de Rouillac avaient demandé au curé de Rouillac de l'époque de conduire une procession de supplications, de demandes de pluie, à la source de Saint-Julien. On part en procession à la source de Saint-Julien, à peine 100 mètres de l'église, alors en tête le curé, tenant la croix des processions, elle est toujours dans la chapelle latérale nord de l'église de Rouillac. On arrive à la source, c'est très rapide, on part de l'église sous un ciel brûlant, un ciel éclairant, un ciel éclatant de lumière, un soleil de plomb. On descend, on fait les 100 mètres avec chant, hymne et procession, on se range en cercle autour de la source, qui en principe fait partie de ces sources qui ne tarissent jamais. Même encore fin août, elle avait traditionnellement encore, fin août, début septembre, elle avait encore de l'eau. M'ont dit les gens qui ont connu Rouillac avant l'installation d'un réseau d'adduction d'eau. On se rangeait en cercle autour de la source. Au centre se trouvait la source. Le curé prenait la croix des processions. Il la plongeait dans la source, donc au centre même du cercle intérieur. La croix figure un axe vertical. Le Golgotha, c'est mythiquement le centre du monde. Il plongeait la croix dans ce centre de la source, faisait un signe de croix, donc il dessinait au centre d'un cercle une croix dont le cœur était le centre, l'hypercentre, si on peut dire. Il faisait un signe de croix, prononçant les paroles rituelles prévues par l'Église catholique dans les missels tout à fait officiels. À ce moment-là, sans qu'on s'en soit aperçu ni pourquoi, on entendait un coup de tonnerre assourdissant. On levait le nez, et que voyait-on ? Un ciel qui, d'un bleu d'azur quelques minutes auparavant, était devenu d'un noir d'encre. Il tonnait, il se mettait aussitôt à pleuvoir. On avait le temps de rentrer à l'église en courant, on arrivait à l'église de Rouillac, mouillé comme des soupes. Il pleuvait juste ce qu'il fallait, ni trop, ni pas assez. Toujours le principe de mesure. Alors vous avez donc là des phénomènes qui apparaissent dans la symbolique. C'est la symbolique, d'abord, la juste mesure en toute chose. Ensuite, quant au rite, la symbolique du cercle des fidèles autour de la source. Vous avez ensuite la symbolique du centre avec la source, qui est accentuée par la symbolique de la croix, plane, horizontale, qui désigne le centre, et centre de l'espace, du territoire, au sein duquel on plante la croix verticale. Donc on trace une croix horizontale qui désigne le centre où on plante l'axe autour duquel tourne le monde. Il faut avoir lu Mircea Eliade pour comprendre ce que la croix est. Au fond, c'est l'axis mundi, c'est-à-dire c'est l'axe, le pivot autour duquel tourne l'univers-temps, le monde et le temps. On a donc, si vous voulez, une croix qui marque le cœur de la source et qui met en relation la source avec le monde d'en haut, celui où vivent les saints, le monde spirituel et le monde d'en haut, c'est-à-dire le monde au-dessus de la voûte céleste, le monde au-dessus du sommet du ciel, où sont contenues les eaux supérieures qui tombent sur la terre sous forme de pluie. Parce que pour nos ancêtres, ils n'établissaient aucun lien entre l'abondance des sources et l'abondance des pluies. Pour eux, les sources, c'était la résurgence des eaux inférieures sur lesquelles flotte le disque plat de la terre. Et les pluies étaient le produit, la manifestation de la délivrance des eaux supérieures contenues au-delà de la voûte céleste qui elle-même était dure, infranchissable. Et pour les Gaulois, ce sommet du ciel était occupé par un dieu qui était Loug, le dieu du sommet du ciel, Taranis, le tonnerre, qui s'exprime à Rouillac, et tonnerre qui à Rouillac, si vous voulez, délivre les eaux supérieures et fait tomber la pluie. C'est ce que nous allons ensuite essayer de voir de façon encore plus approfondie à propos de Saint Martial. Vous êtes toujours avec François Nardoux et toujours aux aliments à propos des sources et fontaines du Quercy-Blanc, l'Aifun et l'Aifundanos del Pais de Quercy-Albenc. Je vais vous parler maintenant d'un cas assez extraordinaire, parce que c'est véritablement un miracle façon fin 19e siècle, qui est intervenu en Haute-Vallée de la Barguelonne, à Saint-Martial, dans le fond de la vallée, dans une parcelle de terre où se trouvait une source tout à fait ordinaire, auquel on ne faisait pas plus attention qu'à une autre source. Alors là, c'est à resituer dans ce que je vous avais dit précédemment à propos de l'étymologie de la Barguelonne, la rivière des Frênes, Bargalona. Mais nous sommes là dans le cadre d'une paroisse, Saint-Martial, qui a été une paroisse indépendante, puis qui est devenue une annexe de celle de Saint-Pantaléon, une succursale. Il faut savoir que vers 1700 de notre ère, c'était le même personnage qui était curé de Saint-Martial-Saint-Pantaléon et de Cambayrac, de Saint-Pardoux-Cambayrac. C'est lui qui a fait réaliser l'ornementation intérieure de l'église de Cambayrac et qui a recentré cette décoration sur le culte des reliques de Saint-Pardoux. Donc nous sommes toujours là dans le même cadre. Saint-Pardoux, maître des pluies et des sécheresses à Cambayrac, honoré par un de Testas de Folmont à Bagat, curé de Cambayrac et de Saint-Pantaléon et Saint-Martial. Vous voyez, il y a des éléments qui se rejoignent. Ça va ressurgir fin 19e siècle. Lorsque, alors c'est resté dans les mémoires de certaines familles, vers 1890-91, on est resté 14 mois d'affilée sans pluie, avec grosse chaleur. Au moins un an et demi de sécheresse totale. Au printemps 91 ou 92, il n'y avait si peu de foin, me disait ma grand-mère, qu'en Charente, dans le Cognacé, même en vallée de la Charente. Là où habituellement on ramassait une pleine charretée de foin, coupée à la faux, on se contentait de se servir de ciseaux qui permettaient de récolter ce qui rentrait dans un drap de lit plié en quatre par les angles, par les coins. Et dans cette période de sécheresse extrême, à Saint-Martial, les propriétaires d'une parcelle qui se trouve maintenant, alors quand on vient de Montcuq, vous laissez à droite d'abord le camping du Moulin de Saint-Martial, puis le chemin vers le centre d'équitation de l'Artigue, puis une pièce de terre labourée, travaillée, qui appartient à M. Dalotte de Saint-Pantaléon, qui va entrer en scène. Et après, vous avez une parcelle totalement envahie par une végétation sauvage. Fin 19e siècle, c'était un pré, qui appartient toujours à la famille propriétaire du domaine, du mas, comme on dit, de Pêche-la-Grange. Et c'est l'arrière-arrière-petite-fille de la principale témoin et actrice involontaire des faits qui m'a raconté la chose au téléphone. Cette personne habite Toulouse. Et elle m'a raconté ceci. Il régnait donc une terrible sécheresse. Ses ancêtres coupaient le foin dans cette parcelle de terre au bord de la route Montcuq-Cahors, là, en contrebas de l'église Saint-Martial. C'est un domaine, Pêche-la-Grange, qui se transmet de mère en fille. Vieille tradition du bassin aquitain et des ibéro-aquitains que nous sommes. Nous sommes plus des ibères que des celtes. Et c'est encore plus vrai dans les Pyrénées. Ou même quelquefois, le nom de famille se transmet de mère en fille. C'est vrai dans tout le sud-ouest. Son ancêtre était dans ce couper-le-foin avec son mari, les enfants, la famille, etc. Les voisins peut-être, il y avait très peu de choses à ramasser. Il avait là une source qui avait encore un peu d'eau. Cette personne se penche vers la source, prend de l'eau dans ses mains, la jette vers le ciel, l'eau retombe, et cette personne dit ceci, « Mon Dieu, faites qu'il pleuve, mon Dieu, faites qu'il pleuve. » En français, en occitan, je ne sais pas. Le lendemain, il a plu. Et il a plu à suffisance, ni trop, ni pas assez, principe de mesure. Du coup, bon, c'est là un rite qu'on appelle de magie imitative, que l'on connaît ailleurs. On imite la chute de la pluie. Par exemple, vous prenez un arrosoir, vous le remplissez d'eau, vous faites couler l'eau par terre, vous imitez la pluie. C'est ça de la magie imitative, à condition de prononcer les paroles, de faire les gestes, ou d'être plutôt porteur des pouvoirs nécessaires. On a su que l'interruption de la sécheresse avait été en quelque sorte la conséquence du rite de magie imitative accompli involontairement et de façon extrêmement chrétienne par la propriétaire de la parcelle en question, la propriétaire de Pêche-la-Grange. Le bruit s'est répandu, les gens de Saint-Pantaléon ont interprété la chose en faisant de cette source une source qui faisait pleuvoir. Ce n'est pas Saint-Martial qui est invoqué, c'est la source elle-même. Pour les gens de Saint-Pantaléon, c'était la source elle-même qui faisait pleuvoir. Alors, de nos jours, la chose est complètement oubliée. Je tiens l'interprétation de feu M. Lagnès, bouilleur de crue bien connu de Saint-Pantaléon, qui m'a raconté ceci. Voilà ce qui se passait. En cas de sécheresse, les gens de Saint-Pantaléon ou de Saint-Martial venaient trouver le dimanche à la messe dans l'église de Saint-Pantaléon le curé de la paroisse, en délégation. il lui demandait d'organiser une procession de rituel, une procession de supplication à la source de Saint-Martial. C'était toujours un jour de semaine que la chose avait lieu. Il m'a dit jamais un dimanche. Et un jour de semaine, après la messe du matin, tout le monde partait en procession par l'Écosse, par les chemins qui dominent la vallée d'Abarguelonne. On redescendait vers la combe de Saint-Martial par un chemin qui aboutit à l'église. De là, on descendait jusqu'en fond de vallée. On se dirigeait vers la parcelle propriété de la famille de Pêche-Lagrange. Comme à Saint-Rouillac, on se rangeait en cercle autour de la source. Le curé prenait la croix que portait l'enfant de cœur. Et, ça c'est un détail, les vieilles gens de Saint-Pantaléon disaient à M. Lagnès, qui était enfant de cœur, « Surtout ne plonge pas la croix dans la source toi-même, tu ferais pleuvoir du sang. » M. Lagnès interprétait ça comme signifiant « Tu ferais venir une catastrophe. » Le curé alors, prononçant les paroles rituelles, qui sont très liturgiques, faisait lui aussi un signe de croix, comme à Rouillac, dans le fond de la source. Celle-ci fut-elle tarie. M. Lagnès me disait « Si se produisait un gargouillement, un bruit, on en concluait qu'il allait pleuvoir. Si rien ne se produisait, on se disait « Il faudra recommencer la procession un autre jour. » Quand le gargouillement se produisait, on finissait la cérémonie, on repartait en procession vers Saint-Pantaléon, mais alors en passant par le fond de la vallée de la Barguelonne, ce qu'on appelle la Ribière. On ne reprenait pas le chemin d'aller, on passait par un autre chemin de retour. Vieille tradition que l'on connaît dans beaucoup de vieilles religions du Proche-Orient, y compris de nos jours en islam, où par exemple, pour les grandes fêtes de la religion musulmane, on doit aller à la mosquée par un chemin et revenir chez soi par un autre. On revenait donc par le fond de la vallée de la Barguelonne, et si la source avait gargouillé, arrivé au croisement de la route Montcuq-Cahors, ou Cahors-Montcuq comme on voudra, vers les lieux-dits La Garrigue-La Serre. Vous avez là une croix de mission sur le bord du chemin, une croix des stations d'érogation. Arrivé là, la pluie arrivait, surprenait les gens se précipitaient, ils avaient encore quand même 2 km à faire, il y a à peu près 3 km entre Saint-Martial et Saint-Pantaléon. Ils arrivaient à l'église de Saint-Pantaléon, mouillés comme des soupes. Et là aussi, même règle, il n'avait plus ce qu'il fallait, ni trop ni pas assez. La source de nos jours se trouve donc dans une parcelle totalement assauvagie, enherbée, elle est pleine de plantes médicinales très intéressantes pour l'herboriste que je suis. Il y a des reines des prés, des eupatoires chanvrines, des saules, des frênes. Alors elle se trouve non pas au milieu de la parcelle, mais pas très loin, un peu excentrée, en bordure de Barguelonne, donc de la rivière des frênes. Elle naît au pied d'un frêne, mais ce frêne est jeune, il est relativement récent, il ne date pas de la fin du 19e siècle. On y parvient, c'est un chemin tracé par les chevreuils ou par les lapins qui doivent venir y boire certainement. Et c'est une toute petite source, elle fait quoi, 50 cm de diamètre, elle reflète le ciel, elle n'a rien de particulier. Donc si vous voulez, le rite est né tout à fait par hasard à la fin du 19e siècle. Il met en scène d'abord une femme, une pazzeso comme on dit en occitan, maîtresse de masse. C'est donc comme à Rouillac avec Sainte Rufine, une femme qui est chargée du rite et qui invente, qui crée le rite, alors qu'ensuite, comme à Cambeyrac, comme à Rouillac, c'est un homme, le curé de la paroisse, qui est seul compétent pour accomplir le rite. Ce n'est plus la propriétaire du site. Donc on a, si vous voulez, un transfert du pouvoir sacral, du principe féminin représenté par la maîtresse des lieux, à Saint-Martial, par l'ancienne divinité des lieux, à Carnac-Rouffiac, vers le représentant de la sacralité masculine, de la sacralité mâle, le curé de la paroisse, à Cambeyrac, comme à Rouillac, comme à Saint-Martial. Et là, on voit de nouveau réapparaître la symbolique des signes, qui sont connus dans nos mythologies et dans nos symboliques depuis le paléolithique, depuis les grottes ornées du paléolithique final, que ce soit Lascaux ou Pechmerle, c'est-à-dire la symbolique des signes fondamentaux. D'abord le point central, le cercle, la croix et quelquefois le carré. On a aussi le triangle qui apparaissent. Et ces symboles, ces signes symboliques sont réutilisés, repris en main. Mais quelquefois il y a des mutations, des évolutions dans la signification des signes. Évidemment, nous ne savons pas ce que signifient ces signes dans les parois des grottes ornées du paléolithique, que ce soit Lascaux, Pechmerle ou d'autres. Nous ignorons. Mais par contre, il se retrouve dans l'architecture des églises et des bâtiments chrétiens du Moyen-Âge. Si vous lisez, pour cela il y a quelques ouvrages à lire, le dictionnaire des symboles de Gerbrandt et Chevalier dans la collection bouquins chez Lafon. Vous avez ensuite deux tomes de la collection L'architecture romane des provinces de France et de l'Europe médiévale par les bénédictins de l'abbaye de la Pierre qui vire à Tournus. Le monde des symboles et le florilège des symboles, quelque chose comme ça. Vous avez ensuite évidemment Maria Gimbutas avec son ouvrage fameux Dieux et déesses de l'ancienne Europe et son ouvrage plus récent Le langage de la déesse. Vous avez évidemment Mircea Eliade, qui est l'auteur incontournable. Mais ce qu'on trouve ici, c'est la réutilisation de ces signes, le point central, le cercle, la croix, le carré, etc. Et surtout, à Saint-Martial, si vous allez sur les lieux, un autre symbole qui apparaît, celui de la sphère, parce que la source reflète le ciel. Elle reflète la voûte céleste. Tout comme à Carnac-Roufiac, la source était protégée par une voûte qui reproduisait la forme de la voûte céleste. Alors en gaulois, la voûte céleste, ça se dit Nem, ça a donné Neméton. Le cercle, c'est Kantos. La source, ça peut être Dubron, ça peut être Batz. Et vous êtes là, en bordure d'un fleuve, d'une rivière, à la Barguelonne, la rivière des Frênes. Or, la source naît au pied d'un frêne, et Mircea Eliade nous le dit bien assez, et c'est particulièrement vrai en Quercy-Blanc avec les bâtons écotés, les prennes de Prégnac. Le frêne, c'est l'axe vertical qui joint les trois mondes, qui joint le monde d'en bas, celui des hommes, et le monde supérieur. Les eaux inférieures, le monde des hommes, les eaux supérieures. Et parce que ce lieu joint les trois mondes, ces lieux permettent l'exercice de rites déclenchant les pluies. Au fond, Saint-Martial, c'est le lieu où est parachevée toute la mythologie et toute la symbolique des sites à source affectés par des rites de pluie en Quercy-Blanc. À Saint-Martial, tout est complet. Le système est complet. Le lieu est complet. Vous êtes dans un lieu de jonction entre les trois mondes et de déclenchement des phénomènes de pluie. Et l'agent de ce phénomène, bon, c'est le rocher, c'est la source, c'est l'homme, peu importe. Mais on voit très bien qu'il y a là un axe vertical qui joignent les trois mondes et qui joignent les eaux supérieures et au-dessus de la voûte céleste aux eaux inférieures sur lesquelles flotte le disque du monde. On est donc dans un système de signes qui illustre ma définition du Quercy-Blanc, qui en fait un système, un ensemble de lieux qui forment un système complet ordonné en vue de signifiance au-delà des symboles. Sur ces données un peu inquiétantes ou troublantes, nous allons nous quitter pour nous retrouver dans 15 jours sur un tout autre sujet, à moins que je ne replonge dans mes dadas habituels sur les secrets et mystères du plus vieux Quercy. Au revoir et à très bientôt.